Alors, bonjour à tous, bienvenue pour donc cette troisième table ronde déjà. Bienvenue donc aux nouveaux qui sont arrivés ce soir. Il y a eu déjà deux tables rondes de passé. On a parlé de la transmission du patrimoine, on a parlé de la location à l'année, donc juste avant. Et on va terminer avec cette dernière table ronde, dernière et troisième table ronde, concernant un petit bilan et puis les perspectives les actions communales, voilà. Pour en faveur du logement. Donc on va en parler tout de suite avec notamment donc Carole Charvaux, maire de L'Île-Dieu. Bonjour Carole, qui va nous dire un petit mot donc pour commencer.
Oui, juste une petite introduction. Bon, comme vous le savez, hein, le logement c'est vraiment un problème. Hein. Il n'est pas normal qu'un Illet qui travaille, qui a ses enfants sur l'île, qui est inséré, et soit obligé de partir sur le continent. Ouais, je peux vous dire qu'il y en a. Faute de logement, hein, c'est souvent un drame, hein, presque un déchirement. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui sont en larmes, donc voilà, c'est pas facile à voir. Mais voilà, on va pas répondre à l'urgence. Nous, on peut pas en tant que mairie. C'est après les solutions qui ont été dites dans les deux dernières réunions. Nous, la mairie, c'est plus sur le long terme, malheureusement. Hein, j'aimerais bien avoir une boîte magique et puis de loger tous les gens que je vois dans mon bureau, mais ce n'est pas le cas. Donc, après avoir vu cet après-midi ce que vous pouvez faire pour endiguer cette crise avec mes collègues, donc Isabelle Cadou, adjointe à l'urbanisme, et Emmanuel Maillard, adjoint à l'économie, on va vous présenter ce qu'on a mis en place déjà depuis longtemps et sur quoi on travaille actuellement, parce que c'est une priorité, hein, le logement dans notre mandat depuis 2020, mais même avant, hein, on a commencé avant. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va y arriver avec vous. C'est sûr qu'on va y arriver. Donc Philippe va nous présenter le sommaire de cette réunion.
Exactement, on va parler donc, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, on reviendra dessus sur essayer de mobiliser un peu les partenaires, les parlementaires et l'État. On parlera de nouveaux moyens pour investir, on verra comment la mairie favorise l'accès à la propriété donc des résidents permanents. Le développement des nouvelles formes d'habitat. On regardera également comment favoriser la création de logements locatifs à l'année et puis réglementer les locations touristiques. Et puis, si on a le temps, donc on a une heure et demie, on verra comment aider les entreprises donc, à loger leurs saisonniers. Mais on va commencer tout d'abord avec donc, ce sujet important du logement pour la mairie. Avant de se lancer dans des grands projets, il faut définir tout d'abord une stratégie locale pour l'habitat. Et donc, Carole Charvaux, en quoi ça consiste, cette stratégie ?
Alors, d'abord, on voulait faire un PLH, donc un programme local d'habitat. Mais en fait, comme on n'est pas une interco, on n'a pas pu. Donc, on a été obligé de se rabattre sur une stratégie locale d'habitat, ce qui n'était pas forcément le but au départ. Bref, qu'est-ce que c'est ? Une stratégie locale d'habitat, c'est une feuille de route en fait, hein, qui est validée par l'État. C'est un document qui fixe les grandes lignes directrices de la politique de l'habitat. Ça fixe les priorités pour une durée de 6 ans. C'est un vrai diagnostic qui sera élaboré par la collectivité avec les partenaires institutionnels comme l'État, la région, le département, les bailleurs sociaux, les acteurs locaux, donc les agences immobilières, le notaire, les artisans, les banques, les associations illaises qui sont impliquées dans l'habitat, et puis les habitants. Donc voilà, c'est un appel du pied aussi, hein, il y aura des réunions publiques, on a besoin de vous pour définir cette stratégie. Pourquoi ce document ? Tout simplement pour avoir une légitimité, parce que on peut plus davantage justifier les préemptions. Aujourd'hui, quand on fait une préemption sur un terrain ou sur une maison, souvent on a un recours et souvent on perd. Grâce à cette stratégie, on va plus gagner, je pense, de procès. Bon, on va plus facilement gagner, me dit Elsa. C'est pas forcément à chaque coup. Donc, on pourra aussi plus facilement chercher des aides auprès de l'État, hein, et ou du département avec ces stratégies locales d'habitat. Alors, comment ? Ben, on va se faire accompagner, comme d'habitude, hein, par un cabinet d'études. et qui sera engagé en 2024 pour une durée d'un an. Et donc, ce document sortira en 2025. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette stratégie locale d'habitat ? C'est juste une toute petite introduction hein, pour vous dire un peu le cadre. Voilà, donc on va passer. Alors, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure des chapitres. Voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Je viendrai donc avec le micro, puisque comme c'est enregistré, on vous entendra mieux donc avec le micro. On va passer à Emmanuel Maillard maintenant, qui a évoqué tout à l'heure lors de la table ronde juste avant comment mobiliser les parlementaires et l'État, faire un peu de lobbying par exemple. Donc on va revenir dessus un peu plus longtemps et surtout quels sont les nouveaux moyens pour investir.
Merci. En fait, depuis qu'on avait fait la semaine du logement, où on était parti sur le diagnostic et de ce qui se passait, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on avait le droit de rien faire. En gros, c'est-à-dire que pour l'instant, en France, il n'y avait que les grandes villes de plus de 50 000 habitants ou de 200 000 habitants qui étaient classées en zone tendue, qui avaient des outils de régulation, que ce soit sur le foncier, sur des incitations à de l'investissement locatif, des choses comme ça. Et nous, à l'Île-Dieu, on ne peut rien faire. Donc, pendant 2 ans, on a mobilisé le préfet, on lui a demandé à être... En fait, le but, c'était d'être reconnu comme ayant une tension, vivant une tension sur le logement sur l'Île-Dieu, et donc avoir droit aux outils existants. Donc ça, ça a été la première chose qu'on a fait. Donc c'était... il y a tout ce qu'est la refonte sur le logement locatif, la régulation. On essaye aussi de faire entendre la spécificité de l'Île-Dieu. Donc au début, quand on envoyait nos courriers, en fait, on nous renvoyait des courriers. Le premier du préfet, je me rappelle, qui disait, en fait, comme, je vais prendre un exemple, Saint-Gilles n'est pas reconnu en zone tendue et que vous avez la même situation que Saint-Gilles, donc CQFD, vous n'êtes pas en zone tendue. Donc voilà. Donc ça, c'était le premier. Et donc, on a recommencé, on a renvoyé, on a amélioré notre dossier, puis on a refait des demandes, etc. Et ça a fini par marcher, c'est-à-dire que l'année dernière, on a eu la reconnaissance de notre zone tendue. Alors, sur les tensions sur le logement, il y a deux zonages. Alors ça, c'est l'État. Donc, vous avez une appellation zone tendue. Donc, on n'y était pas. On a fini par l'avoir. Et après, vous avez des histoires de zonage. Vous pouvez être en zone A, B, et l'Île-Dieu était en zone B2, c'est-à-dire non tendue, et on demandait par dérogation à passer en zone B1, qui nous reconnaissait une tension, et ça permettait de faire, par exemple, du Pinel, des choses comme ça. Ça permettait, par exemple, le prêt à taux zéro, quand vous voulez construire une maison à l'Île-Dieu, on pouvait avoir 20% sur le prêt à taux zéro. En passant en zone B1, on passait à 40%. Donc voilà, c'était ce genre de truc. Donc on a mis 2 ans à avoir tout ça. On a fini par les avoir. Alors au début, par dérogation, et puis finalement, la loi, parce qu'on n'est pas les seuls à se battre. Et en fait, l'État a fini par faire des avancées là-dessus. Au début, il ne voulait pas. Donc, toutes les îles du Ponant ont été reconnues en zone tendue. Cette zone tendue nous a donné une chose principalement, c'est la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors ça, on en a entendu pas mal parler. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça existe depuis des années pour les centres-villes, Paris, Marseille, etc., qui avaient le droit. Et ça faisait un moment que nous et d'autres sur le littoral ou dans les montagnes ou les Corses demandaient à pouvoir le faire. Donc ça, on l'a eu. Dans la foulée, on a voté en conseil municipal le fait qu'on adoptait la majoration sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Et à suivre, on a voté 60% sur la majoration, qui était le maximum que l'État autorise actuellement.
Excuse-moi, c'est sur la part communale, attention. C'est la part communale, c'est une majoration de 60% sur la part communale de la taxe d'habitation.
Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? On a fait ça pour une raison très simple. C'est que, en gros, jusqu'à maintenant, une mairie, par rapport au logement, elle faisait... elle allait soutenir la construction de logements sociaux ou accompagner le logement social. Elle allait aussi faire de l'accession à la propriété. Donc, l'Île-Dieu, depuis des décennies, fait de la réserve foncière. Elle viabilise des terrains. Elle vend les terrains pour des primo-accédants, donc des jeunes qui vont acheter à un coût moindre et qui peuvent construire. Donc ça, c'était en gros le boulot de la mairie ces dernières années. Maintenant, avec le problème du logement, on se retrouve avec un parc locatif qui a diminué. On a de l'accession à la propriété qui devient carrément difficile. On a de la construction qui devient difficile. Donc, la mairie, elle se retrouve à devoir faire de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'il faut soutenir le parc locatif. Il faut soutenir l'accession à la propriété. Et donc, soit on prend cet argent sur le fonctionnement, le budget de fonctionnement de la mairie, auquel cas on appauvrit la mairie, soit on trouve d'autres argents. Et l'État donnait cette possibilité. Donc, une fois qu'on s'est mis... qu'on a eu l'obtention de la reconnaissance de la zone tendue, on a pu mettre en place cette majoration. Cette majoration, elle va nous amener 1,5 million par an. Donc ces 1,5 million, ils vont être fléchés sur cette aide au logement, c'est-à-dire acheter du bâti. Et ce bâti, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le mettre en location. C'est-à-dire que à chaque fois, on est en train de perdre les maisons. On a fait une réunion tout à l'heure sur la transmission de patrimoine, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de payer les frais de transmission, en gros, vous vendez la maison. Vous divorcez, deux jeunes qui ont 40 ans, qui n'ont pas des gros salaires, ils divorcent, en gros, ils vendent la maison parce qu'il n'y en a aucun qui est capable de racheter la part de l'autre, etc. Donc à chaque fois, elle est vendue à un prix tellement élevé que c'est rarement un résident principal qui l'achète, donc on perd les maisons. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse à nouveau de la réserve foncière, qu'on viabilise, qu'on revende, puis dans 20 ans on recommence. À un moment donné, l'île Dieu, c'est pas extensible, donc ça marche pas. Donc il faut qu'on pérennise l'habitat en tant que résidence principale. Donc cette majoration va nous permettre de racheter des maisons. Donc le but, c'est d'acheter des maisons qui sont louables facilement, et on les met en location, et elles resteront dans le parc communal pour rester en location. C'est-à-dire que cette maison-là, elle va rester une résidence principale sur les décennies à venir. Quoi. Donc, on recrée du parc locatif en faisant ça. Après, cet argent peut aussi servir. Vous voyez, on a du mal à faire du logement social, puisque, en gros, les bailleurs sociaux, ils n'arrivent pas à construire à l'île-Dieu parce que le coût de la construction est trop cher. Donc, cet argent pourrait servir à venir aider un bailleur social à créer du logement social. Donc, ça, c'était sur la majoration, sur la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Peut-être qu'il y a, là, il y a des questions sur ce sujet, peut-être. Non, ça ne fait plus débat, alors. Parce qu'au au début, ça faisait franchement débat, la majoration. Oui.
On a bien une question.
Si aujourd'hui, on hérite de la maison de ses parents, on sera soumis quand même à la taxe sur les résidences secondaires, puisqu'on est déjà propriétaire.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas... Les gens font l'amalgame, c'est-à-dire qu'ils pensent résidence secondaire et ils pensent résidence secondaire. Mais c'est bien la deuxième maison. C'est la résidence secondaire, c'est, si on en a deux, si on en a trois, on paye une taxe d'habitation. Donc les gens seront majorés.
Oui, mais...
Donc tu seras majoré, sauf si tu la loues à l'année, auquel cas ça redevient une résidence principale. Même si c'est ta deuxième maison, c'est quand même une résidence principale, auquel cas il n'y a pas de taxe d'habitation. Voilà.
Donc il n'y a pas d'autres questions sur...
sur la majoration. Sur la majoration. Donc l'autre truc, c'est qu'on a eu on est passé en B1, comme 7 communes en Vendée, là il n'y a pas longtemps, on fait partie des 7 communes que l'État a fait passer en zonage de B2 à B1, ça nous offre peu de choses, puisque finalement, avant, il y avait le Pinel qui pour de l'investissement locatif, sauf que l'État veut construire plutôt en hauteur, donc dans les villes. Donc le Pinel, maintenant, il va être, à partir de cette année, il est que pour du logement collectif.
Intermédiaire.
Le Pinel, c'est quand tu peux, c'est les gens où tu vas investir, tu as des exonérations d'impôts, et ça te permet d'acheter un logement que tu loues. Et puis entre le revenu de ta location plus les exonérations d'impôts parce que tu as fait un investissement, en fait, tu t'y retrouves. Donc ça sera pas possible avec le BA, sauf si c'est du logement collectif. Et l'autre chose, c'est le prêt à taux zéro. Et actuellement, le prêt à taux zéro, du fait qu'on soit passé en zone B1, vous pouvez avoir un prêt à taux zéro à 40% de votre dossier. C'est-à-dire que le prêt à taux zéro, avant, tu avais 20% de ton dossier. Maintenant, en passant en zone tendue, ça monte à 40%. Voilà. Le problème, c'est que l'État a décidé d'enlever le prêt à taux zéro sur les maisons individuelles, c'est sur les maisons individuelles aussi. Donc, en gros, on a réussi à être en zone B1 et les avantages du zone B1, on est en train de les perdre parce que l'État a changé les règles entre-temps. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans le zonage B1, c'est qu'en fait, on a la reconnaissance de cette zone tendue. Donc, quand on va voir l'État, on est légitime à dire on est en zone tendue, donc on a des problèmes, donc il faut nous écouter. Parce que pour l'instant, on était reconnu de rien, donc c'était un peu compliqué. Donc, voilà ce qui s'est passé par rapport à on va dire, ces petites victoires qu'on a réussi à avoir, qui ont été longues à avoir, c'était un peu compliqué, mais qui vont nous aider parce qu'elles nous légitiment pour aller chercher, pour aller défendre notre dossier. Quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur les zonages ?
Alors, une question.
C'est par rapport un peu à la spécificité sur l'autoconstruction, par rapport à l'emprunt à taux zéro. Alors, on sait que beaucoup de jeunes de Lille fonctionnent en autoconstruction. On n'a pas forcément d'apport quand on est jeune. Et aujourd'hui, les banques demandent automatiquement un apport personnel à hauteur de 30% du montant de la construction. Et ils n'aident plus non plus l'autoconstruction. Enfin, je voudrais bien en savoir plus là-dessus, sur l'histoire de l'autoconstruction par rapport à un emprunt bancaire.
Alors, l'autoconstruction, c'est... Alors, on a rencontré les banquiers par rapport à ça en se disant... En ces dernières années, les jeunes, quand ils arrivaient à accéder à la propriété, en gros, ils faisaient de l'autoconstruction avec les cousins, les frangins, tout ça. Sinon, s'ils faisaient faire, ils peuvent pas. Et on entendait dire que les banques étaient en train de faire marche arrière sur l'autoconstruction. Donc, on les a rencontrés il y a plus de 3 semaines, je crois. Et alors, ce qui est spécifique, c'est que les banquiers disaient que c'est vraiment une spécificité de l'Île-Dieu, l'autoconstruction. Ailleurs, les gens ils font construire. Et de temps en temps, il y a quelqu'un qui construit tout seul. Mais en gros, le coût de la construction, il n'est pas le même. Et donc, en fait, ils font faire, ou au moins, ils mettent hors d'eau, hors d'air. Mais l'autoconstruction, c'est vraiment un truc très, très, très insulaire actuellement. Eux, ils ont, comme tout à l'heure, on disait, si l'autoconstruction limite, les artisans fournissent les matériaux, est-ce qu'ils donnaient des conseils, est-ce que ça marcherait d'engager une décennale, ça marche pas. Les banquiers, ils ont le même problème derrière. C'est une histoire d'assurance, c'est que sur l'autoconstruction, comme au bout d'un moment, ils ont des soucis, notamment s'il y a des reventes ou s'il y a un problème sur la maison parce qu'elle est mal faite. Donc, ils sont en train de mettre ceinture et bretelles, quoi. Donc, ils en veulent plus. Parce que pour eux, c'est un produit dangereux, en fait, l'autoconstruction. Donc, sur le littoral, c'est pas gênant parce que c'est juste un cas de temps en temps. Ici, c'est un vrai problème. Alors, je vais pas dire qu'ils nous ont rassurés, mais ils nous ont un peu rassurés dans le sens où ils font un peu du cas par cas. Et donc, ils continuent à essayer de... Parce qu'on entendait dire qu'il fallait jusqu'à 50-60% fait par des artisans sur un projet de maison. Ils n'en sont pas là, ils sont plutôt sur du 30%. Et après, ils arrivent même à faire passer les dossiers parce qu'ils connaissent les gens. Si on vient en disant, voilà, mon frère, il est maçon, et il vient dire qu'il va bosser, tout ça. Donc, ça fonctionne encore actuellement pour l'autoconstruction. Mais... ça ne durera pas non plus, quoi. Alors, le prêt à taux zéro, de toute façon, il s'arrête. Alors, si par exemple, vous avez des amis, des connaissances qui sont sur des projets en cours de construction, le prêt à taux zéro, les 40%, devait s'arrêter le 31 décembre. Finalement, c'est prolongé jusqu'au 30 mars ou 31 mars. 31 mars. Donc, il faut aller vite et on va dire qu'il faut que le dossier soit déposé et bien instruit avant la fin du mois de février. Et là, il y a la possibilité d'avoir les 40% sur le prêt à taux zéro. Alors, s'il y a des gens qui sont dans des dossiers-là, il faut vraiment leur dire un truc tout bête. Si vous prenez 280 000 euros d'emprunt sur 20 ans, en gros, entre un prêt à taux zéro à 40% de votre dossier et pas de prêt à taux zéro, vous êtes quasiment à 250 euros mensuels de différence, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, dans un cas, vous faites, puis dans un cas, vous ne faites pas, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est la loi, c'est l'État qui gère.
Alors, on va passer, donc, si c'est terminé, à l'autre sujet. Isabelle Cadou qui va nous dire comment favoriser, justement, l'accès à la propriété des résidents permanents.
C'est-à-dire que pour continuer à proposer et à aider les gens à accéder à la propriété, une des stratégies de la commune a toujours été de faire de la réserve foncière, ce qui se faisait de temps en temps. Maintenant, on est beaucoup plus vigilant et beaucoup plus C'est-à-dire que on pourrait dire qu'on saute sur tout ce qui bouge et qui constitue potentiellement un projet de création de terrain pour des accessions pour les îlets, sachant que effectivement on utilise le DIA. Il y a aussi des gens qui viennent nous proposer des terrains. Aujourd'hui, on a des terrains dans des lotissements à venir. Alors Faugirose, c'est un peu particulier puisqu'on a récupéré le lotissement entre guillemets tout vendu, juste que l'entreprise qui s'en occupait a laissé tomber le projet. Donc la mairie a récupéré et a permis de mener à bien ce projet de lotissement. Après, le dernier lotissement qui a vu le jour par la mairie, c'était celui du, enfin aidé de Vente d'Habitat, c'était celui du Carpissotte. Le prochain sera la Chironnière, donc du côté de Cadouer, hein, où il y aura 8 lots destinés à des primo-accédants et un îlot pour du logement social avec un prévisionnel de 4 logements en T2. Ça pour fin 2024. Et la Tonnelle, hein, un plus gros îlot qui lui aura 17 lots vendus à des primo-accédants. Un îlot toujours pour du logement social potentiellement géré par Vendée Habitat. Je ne sais pas si on a acté le bailleur social encore, vraiment.
Normalement, oui, c'est Vendée Habitat.
D'accord. Et puis, on a prévu aussi un lot pour du logement coopératif, c'est-à-dire des nouveaux systèmes d'habitat pour aussi des nouveaux habitants et des nouvelles façons d'habiter à l'île-Dieu sans forcément être propriétaire du foncier. On avait aussi, parce qu'effectivement, comme disait Carole, l'actualité s'est extrêmement tendue, on a commercialisé l'année dernière 7 terrains qui étaient disponibles. Donc on a utilisé un système de tirage au sort, hein, parce que c'est extrêmement compliqué de dire premier arrivé, premier servi. Tout le monde n'a pas toujours le même niveau de connaissance des projets qui sortent. Donc sur 32 candidats, il y en a 7 qui ont été tirés au sort et qui ont eu accès à un terrain. Aujourd'hui, sur ces 7 terrains, on a plusieurs permis qui ont déjà été déposés. Donc sur ce côté-là, c'est une affaire qui tourne. Ceci dit, on est bien sûr en prospection pour d'autres lotissements dans d'autres endroits, hein, mais qui viendront dans les prochaines années. Je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on s'est rendu compte d'une part que primo-accédant au titre, national, ça ne correspondait pas forcément, parce qu'un primo-accédant ne doit pas être propriétaire du tout. On a quand même statué que sur l'île-Dieu, c'était un petit peu compliqué parce que quelquefois, il y a des gens qui venaient s'installer à l'île-Dieu, mais qui, au demeurant, gardaient une résidence sur le continent et que c'était peut-être un petit peu injuste de les éloigner et de leur dire privez-vous de votre maison de famille sur le continent parce que pour être ici, il ne faut être propriétaire de rien. Donc, nous, nos primo-accédants, c'est primo-accédants sur l'île. C'est vrai qu'on oblige les gens à habiter sur l'île-Dieu à l'année
travailler sur l'île.
À travailler sur l'île, mais pas que, hein, Carole, pas que. Parce qu'au final, les retraités aussi, parce qu'on a décliné en fait tous les gens, sauf effectivement les résidents secondaires, mais les travailleurs, les retraités, les personnes en situation de handicap, Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout le monde.
C'est ça.
Donc, en fait, voilà, on n'a exclu personne. Simplement, aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait ses limites, c'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Manu, s'il y a un accident de vie, comme un décès, un divorce, ou que quelqu'un, bah, effectivement, doit quitter les lieux pour une raison ou une autre, il peut revendre le bien qu'il a acheté. Ceci dit, les clauses qu'il y avait, par exemple, je vais reciter le lotissement du Kerpissot, ces clauses, en fait, ne protégeaient pas le fait que ce foncier, ce terrain, reste pour de l'habitat à l'année. Donc, on a quand même décidé d'imposer une spéculation moindre, c'est-à-dire de se fixer sur le prix des...